Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes en compagnie de Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Vous avez notamment publié, Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement au seuil. Le fait que le pape François soit aujourd'hui considéré, ou en tout cas qu'on puisse évoquer son appartenance partisane, par exemple, à la gauche, qu'est-ce que ça suscite en vous, Pierre Rosanvallon?
Pour l'historien, que c'est une qualification qui ne me semble pas convenir, parce que depuis le 19e siècle, on a vu bien des gens d'église et de hauts responsables d'église et des personnes très traditionnalistes critiquer l'économie capitaliste, critiquer la pauvreté, critiquer les injustices. Et qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre justement de ce qui fait obstacle en quelque sorte à une communauté humaine et puis des formes que doit prendre cette communauté humaine. Et nous avons vu souvent, et Jean-Paul II était un bon exemple, ce qu'on pourrait appeler des conservateurs prophétiques. Conservateurs par leur vision, en quelque sorte, de la société, mais prophétiques parce qu'ils dénonçaient la façon dont cette société était malmenée par les inégalités et les formes de capitalisme.
Mais le fait que son geste soit perçu comme audacieux, alors que nos politiques sont eux-mêmes perçus en ce moment comme trop timorés,
Ça n'est pas un gouvernant, c'est, je dirais, mieux qu'aucun intellectuel aujourd'hui, c'est la parole d'une personnalité qui sait se faire écouter, parce que justement, elle parle un langage qui n'est pas convenu. Un langage qui sait à la fois être un langage de la critique sociale et un langage très traditionnel sur les formes de famille, par exemple.
Pour dialoguer avec vous, Brice Couturier et Caroline Fourest. Caroline Fourest.
Pour poursuivre la discussion qu'on avait en première partie, on sent bien, Pierre Rosanvallon, que selon la définition tracée un peu par Régis Debray, vous êtes plutôt démocrate que républicain dans son catalogue à lui.
Certainement.
Mais si vous êtes pour la démocratie de plus en plus élargie à l'époque des réseaux sociaux, où moi j'ai pas le même sentiment que vous, j'ai pas l'impression d'une anémie démocratique, j'ai même l'impression d'une over-démocratie par moment, et d'un problème de structuration de cette délibération. Pourquoi n'êtes-vous pas pour le renforcement du parlementarisme, qui est peut-être une façon de renforcer, justement, de structurer cette délibération ?
Vous avez raison de dire qu'il y a le sentiment d'un trop-plein d'expression. Mais le problème de la démocratie, c'est pas simplement l'addition des expressions individuelles. C'est organiser l'expression de telle sorte que se forme un vœu commun, que s'organise, comme on disait autrefois, la volonté générale. Et Internet a cette spécificité que ça n'est pas un média. Internet est une forme sociale. Et pour la première fois, on peut dire qu'Internet donne une forme matérielle à l'opinion. Avant Internet, l'opinion, elle existait toujours médiatisée par un sondage, médiatisée par un représentant, médiatisée par la parole d'un journal. Là, l'opinion publique, elle existe dans comme magma omniprésent. Mais justement, la vie de la démocratie, c'est de passer du magma de l'expression à la mise en forme, en quelque sorte, du commun. Le commun, ça n'est pas la cacophonie. Le commun, il naît de la délibération quand les expressions arrivent par le débat à converger ensemble.
Nous en arrivons à Nuit debout. Que vous inspire ce mouvement, Pierre Rosanvallon ?
Je me suis rendu à d'assez nombreuses reprises, Place de la République, et j'ai le sentiment de quelque chose de très hétérogène d'abord. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'Assemblée Générale, et là où on sent beaucoup de personnes avides d'écouter, certaines de prendre la parole, mais on sent tout un ensemble de personnes qui sont en attente de quelque chose. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce qui se passe Place de la République est un symptôme qu'il y a une attente d'une démocratie, une attente d'une parole plus libre. Donc ça, je dirais, c'est le côté un petit peu novateur. Mais ce côté novateur, il ne forme pas pour autant un mouvement. Il est un forum, il est une expérience politique, mais un mouvement voudrait dire qu'il y a une orientation commune qui est prise, qu'il y a des directions stratégiques qui sont données. On peut dire que lorsque des personnes manifestent contre la loi El Khomri, elles forment un mouvement de protestation. Et elles sont organisées vers un but et elles sont dans une structure qui permette d'aller, pensent-elles, vers ce but. Là, on est dans quelque chose qui est à la fois plus basique et plus modeste. Mais en même temps, sur cette place, et c'est normal, il y a, je dirais, convergent sur cette place aussi beaucoup de petits groupes d'extrême-gauche ultra-classiques. Donc il y a le classique de l'extrême-gauche dans sa diversité, et puis d'autre part, cette espèce d'attente de quelque chose. On ne peut pas encore vraiment parler de mouvement, non, je ne pense pas, de laboratoire un peu, mais surtout que c'est un symptôme. Qu'il y a la nécessité, je dirais, de repenser un certain nombre de fonctions.
Certains commentateurs, comme mon camarade Brice Couturier, ici présent, trouvent que les médias regardent nuit debout avec une certaine béatitude, avec beaucoup d'émotion et finalement une absence d'objectivité sur ce qui se déroule vraiment et sur la représentativité du mouvement Pierre-Rose en Vallon.
La représentativité, il est clair d'abord que c'est c'est sur la place de la République, au mieux pendant les week-ends, quelques milliers de personnes. Donc ça n'est pas un grand phénomène de masse. Quand on pensait à ce qu'ont été le rôle des grandes places dans les révolutions arabes, là c'était des masses gigantesques. Quand on pense à ce qu'étaient les masses sur la Puerta del Sol en Espagne, avec les indignés, ça c'était vraiment des grandes masses. Là on a quelque chose de plus modeste, plus homogène aussi. On ne sent pas une France de la diversité présente. La question de la surmédiatisation, elle mérite d'être posée. Moi, je pense qu'effectivement, je suis frappé de la différence qu'il y a entre la réalité à la fois très intéressante, mais relativement modeste, de ce qui se passe sur la place, et puis l'importance donnée dans les médias. Et je vois plutôt dans cette surmédiatisation, non pas l'effet d'une sorte d'idéologie, mais j'y vois davantage le symptôme, justement, que tout le monde, et dans les médias aussi, est en attente qu'il se passe quelque chose. Donc quand on voit qu'un endroit où ça bouge, on est intéressé, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on piétine tellement actuellement dans la société, que tellement de choses sont bouchées, que si un endroit, il y a un peu de la palpitation, et ben c'est très bien. Mais en même temps, je rajouterai une chose, ce qui me frappe, deux choses. La première, c'est que la dimension festive n'est pas très présente. Tout rassemblement d'habitude veut dire de la musique, veut dire de la chanson, veut dire des chœurs communs. Et là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant. Et même le langage des signes qui est utilisé pour manifester son approbation ou sa désapprobation donne un sentiment de gravité. Moi, je suis frappé par ce fait-là. Plus que festif, il y a quelque chose de grave en disant « il faut qu'on avance, on est dans le brouillard ». Et cela, ça me paraît quelque chose de très positif. En même temps, je le dis d'un mot juste, en même temps, la place de la République est tout de même la place qui est celle du mémorial des victimes du 13 novembre. Et là, le rassemblement est à côté. Comme si, au fond, il y avait deux moments et deux formes d'expériences récentes dans la société qui se superposaient sans être capables de se rencontrer. Ça m'est apparu comme une question qui méritait d'être creusée.
Brice Couturier.
Oui, comme disait Marx, quand l'histoire se répète, c'est une tragédie qui devient une comédie. Et là, on a quand même le sentiment d'assister à une répétition de mai 68. Je n'aurais pas joué les anciens combattants, mais en mai 68, un certain nombre d'idées de réformes très concrètes sont issues des débats de la Sorbonne. Par exemple, il faut voir que la loi Edgar-Faure de 68, c'est la reprise exacte des revendications qui avaient été formulées par les assemblées générales de 68. Et puis, les grandes réformes de société qui ont eu lieu sous Giscard d'Estaing étaient également contenues dans le programme de mai 68. Il y avait un programme politique. Là, on voit des gens qui discutent depuis trois semaines sur une place et la contradiction entre effectivement la surmédiatisation d'une part et d'autre part, la médiocrité de ce qui en sort très concrètement est éblouissante. Enfin, quand même, ça devient vraiment un problème. Qu'est-ce qui sort exactement de tout cet agit-prop?
Médiocrité, je ne sais pas s'il faut employer un terme comme ça. En tout cas, moi, je ne l'emploierai pas. J'ai vu, par exemple, qu'il y avait une commission constitution. Et c'est un ensemble de gens qui, visiblement, se retrouvaient pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux, à réfléchir sur une constitution. Ils étaient comme, en quelque sorte, des étudiants en démocratie.
Et qu'est-ce qu'ils proposent exactement, alors?
En tout cas, ils avaient de bonnes lectures, parce que ils conseillaient même de lire Aristote et de lire Montesquieu. Mais il ne faut pas voir ce qui se passe place de la République comme ce qui va être le creuset des propositions pour l'avenir, mais pour le fait que les citoyens ont aussi envie physiquement de se parler. À l'âge d'Internet où tout le monde s'exprime en silence, là on voit des gens qui ont un besoin d'être en commun.
Et puis nous sommes justement en ligne avec un homme qui samedi soir était place de la République, Alain Finkielkraut. Bonjour Alain Finkielkraut.
Oui, bonjour.
Comment s'est déroulé votre séjour sur la place de la République samedi dernier ?
Écoutez, je suis allé samedi soir donc place de la République, j'avais lu beaucoup d'articles et je voulais essayer de comprendre et de me faire une idée, de m'informer par moi-même. Je suis donc arrivé vers 8h30, à peine place de la République, un homme de mon âge m'a interpellé par ces mots. On va voir le petit peuple, quelle décadence. Ma femme qui m'accompagnait l'a fusée du regard. En réponse, il nous a tiré la langue et s'est retourné ostensiblement. Nous ne nous sommes pas laissés décourager. Nous avons continué notre chemin. Nous sommes allés vers l'Assemblée Générale. Et là, un homme jeune, avant que nous arrivions à l'Assemblée Générale, a eu le temps de me dire « on n'a pas besoin de vous ici ». Je lui ai répondu que c'était moi qui avais besoin de voir. Nous avons entendu deux discours à l'Assemblée Générale contre la société de consommation, contre le capitalisme. Nous avons continué notre chemin. Nous avons vu un petit atelier sur la cause animale qui m'intéresse. Une femme alors, d'ailleurs, nous a abordé très gentiment, m'a remercié d'être là, m'a dit que tout était très serein sur la place de la République. Mmh. Ça n'avait rien à voir avec les casseurs, mmh. Les débats étaient très sérieux, que ça allait mener à une assemblée constituante. Mais c'est là que les choses se sont vraiment gâtées. Un homme s'est approché de moi, m'a dit qu'il valait mieux que je m'en aille parce que certains voulaient en découdre. Et je lui ai dit que je n'en avais pas l'intention. Et à ce moment-là, il m'a poussé violemment. J'ai compris que c'était lui qui voulait me jeter dehors. J'ai protesté. Je suis revenu au centre de la place. Là, une petite foule s'est amassée et a commencé à dire « casse-toi, dégage ». Des gens qui étaient sans doute du service d'ordre m'ont dit « là, il faut partir pour votre sécurité ». Nous avons été escortés par cette petite foule déchaînée. Une femme particulièrement violente me menaçait de coups de latte. Quand je me suis retourné pour les engueuler, le monsieur qui avait voulu me pousser dehors a eu le temps de me cracher au visage. Et puis, à ce moment-là, nous avons dû en effet quitter la place et traverser pour nous retrouver de l'autre côté du boulevard. Voilà exactement ce qui s'est passé. J'en conclus une chose, si vous voulez. La nuit debout, c'est, nous dit-on, une agora. Une agora où la discussion règne. Le maître mot de nuit debout, c'est le débat. Mais en réalité, c'est le même qui fraye avec le même. L'autre, c'est l'ennemi. Et c'est intéressant, malgré tout, si vous voulez. Je ne veux pas donner trop d'importance à ce qui m'est arrivé, mais il s'agit pour Nuit Debout, en quelque sorte, de manifester le besoin d'un monde postérieur à la bourgeoisie et au capital, où pourrait s'épanouir une véritable communauté humaine. Et on commence par purger, comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu, comme si il n'y avait pas eu d'expérience totalitaire, on commence à purger cette communauté de toute pensée, de toute présence divergente, dissidente, étrangère. Mais, alors je pense qu'il y avait des gens à Nuit Debout qui ont été désolés de ce qui m'est arrivé, mais visiblement ils étaient très minoritaires. Mais ce que j'ai constaté, ne fût-ce qu'en traversant la rue, c'est que ça ne prend pas. C'est-à-dire que les citoyens, dit Pierre Rosanvallon, se réunissent, mais il y avait des gens à côté. C'était samedi soir, les gens allaient au théâtre, en sortaient, etc. Beaucoup m'ont reconnu, on a discuté ensemble, et ils ne prêtaient aucune attention à ce qui se plaçait à quelques mètres d'eux. Si vous voulez, c'est comme une petite bulle révolutionnaire au milieu d'une ville complètement indifférente. Et là, je m'interroge à mon tour sur l'extraordinaire publicité donnée par les médias à ce mouvement. On lui a fait le lancement de Star Wars alors que c'est une petite kermesse sous cloche. Et Pierre Rosanvallon nous dit c'est vrai, on a envie dans ce moment très déprimé de tout ce qui peut en quelque sorte faire apparaître une initiative, mais je me souviens d'un autre mouvement nocturne auquel d'ailleurs je n'adhérais pas du tout. Mais c'était les veilleurs. C'était les veilleurs contre la gestation pour autrui. C'était des gens qui se réunissaient et qui discutaient la nuit. Et là, les médias ne leur ont accordé aucune place, aucun intérêt. Ça, c'était pas citoyen parce que c'était réactionnaire. Donc là, moi, je crois qu'il y a, si vous voulez, une idéologie, malgré tout, médiatique, qu'il faudrait aujourd'hui interroger précisément du fait de l'insuccès du mouvement que cette idéologie essaye à toute force de promouvoir.
Pierre Rosanvallon.
Je pense qu'il ne faut pas idéaliser ce qui se passe place de la République, mais il ne faut pas le démoniser non plus. Et il est important de rappeler justement le caractère aussi hétérogène des personnes qu'il y a sur cette place. Il y a vraiment des espaces de grande bienveillance et certainement qu'il y a aussi des groupes activistes plus musclés. Et si il y avait eu un rassemblement, je dirais, la convergence de l'extrême-gauche, Alain Finkielkraut ne serait pas allé assister à un rassemblement convergence de l'extrême-gauche. Mais il y a un peu les deux dimensions. Moi, en ayant séjourné à plusieurs reprises sur cette place de la République, j'ai eu le sentiment que l'espace de bienveillance était tout de même nettement plus large que l'espace, je dirais, de groupes activistes classiques dont il a été victime. Donc, ne faisons pas de cet incident l'aimant qui va juger ce qui se passe place de la République. Cela me paraîtrait très exagéré. Voyons plutôt ce qu'il convient de faire pour aller plus loin. Parce qu'effectivement, on voit bien une forme de blocage place de la République. Il y a la tendance et le risque qui se passe actuellement un peu d'être dans la répétition. Et que la parole s'exprime, mais après la parole, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et donc, ça pose la question très intéressante. Comment en démocratie, à quel moment on sent qu'il y a un besoin d'incarnation? Est-ce qu'il faut faire de la représentation? À quel moment on doit passer, je dirais, du débat ouvert, spontané, à quelque chose de plus organisé? Toutes ces questions-là se posent et il est pas tant que la place de la République ne pourra pas continuer éternellement sur ce modèle simplement de la prise de parole bienveillante vis-à-vis d'autrui.
Alain Finkielkraut, une réaction.
Écoutez, prise de parole bienveillante, je n'en sais rien. Mais Brice Couturier a parlé de mai 68. Je ne veux pas non plus idéaliser mai 68, mais il y a un paradoxe. Mai 68, le maître mot, c'était la lutte, le combat, la révolution. Et en même temps, ça a été un moment où tout le monde parlait avec tout le monde. Un moment de conversation. Je parle de mai simplement parce que ensuite la radicalité s'est épanouie. En 69, on a jeté une poubelle sur la tête de Ricoeur à Nanterre. Mais ça a été ça. Et là, le maître mot, c'est le débat. Le maître mot, c'est la discussion. Et il s'agit d'une agora, d'un forum citoyen. Et en fait, et ça j'ai quand même pu le constater, et d'autres témoignages me l'ont confirmé, le même fraye avec le même. Voilà, en guise de discussion. Parce que je ne veux pas donner trop d'importance à ce qui m'est arrivé, mais après tout, on aurait pu choisir ce moment pour m'interpeller. Moi, je ne venais que pour voir. Mais ça n'avait aucun intérêt. C'est un entre-soi. C'est un entre-soi. Voilà d'ailleurs pourquoi ça intéresse si peu de monde en réalité, Nuit Debout. Caroline Fourest a parler de la privatisation de la place de la République par une bande de sectaires, je crois que c'est une réalité très forte. Alors je veux bien croire que, je suis tout prêt à admettre qu'il y a des gens tout à fait bienveillants à Nuit Debout, et j'ai rencontré une personne comme cela, mais la réalité forte, c'est celle-là. Voilà pourquoi je crois que ce mouvement sera au bout du compte totalement stérile. D'ailleurs, on parle d'assemblée populaire. Premier constat, les quartiers populaires, évidemment, ne sont pas là, et le populo non plus, ce qu'on appelait le peuple autrefois. C'est-à-dire, ni les quartiers populaires, ni le populo. Donc, ça aussi, il faut s'en rendre compte quand on parle, si vous voulez, d'un réveil citoyen. Tout de même, gardons les pieds sur terre, regardons ce qui se passe réellement place de la République.
Caroline Fourest aimerait réagir.
Oui, je crois que Nuit Debout n'est effectivement ni comparable à mai 68, ni comparable aux veilleurs non plus. Et qu'il y a sur cette place, qui est l'agora de la gauche radicale, toutes les gauches radicales avec tous les problèmes posés et non posés. Et la présence d'Alain Finkielkraut a révélé les problèmes non posés. On peut parler de la convergence des luttes quand on s'agit des sans-papiers, des réfugiés, de l'ubérisation. Mais il y a une question qui a été laissée de côté, qui est celle du totalitarisme, qui est celle de l'antisémitisme, qui est celle de l'islamisme. Et sur ces questions-là, il y a des gauches radicales présentes Place de la République. Et à mon avis, Alain Finkielkraut, honnêtement, il y a toutes les gauches qui coexistent. Il y a la gauche Charlie, il y a la gauche Mediapart, il y a les indigènes de la République, il y a ceux qui vous ont agressé, c'est les sectaires dont je parlais, qui sont aussi des sectaires qui m'ont agressé à plusieurs reprises. Celui qui a mis en ligne la vidéo vous concernant est un ancien des Yabon Wards, évidemment. On les connaît et ils sont vraiment parfois en désaccord avec d'autres de Nuit Debout sur ces sujets. Mais ce que vous avez révélé par votre simple passage, c'est cette intimidation des violents qui peut exploser à tout moment. Moi-même, on m'a interdit d'aller à des manifestations en soutien aux réfugiés, sinon on me casserait la gueule de la part de certains groupes radicaux qui font que je ne me balade pas à Place de la République pour cette raison. Et l'intimidation de ces violents, de ces radicaux, qu'est-ce que peuvent en faire l'autre partie de Nuit Debout, la gauche Charlie ou la gauche sociale, radicale, qui ne veut pas être complaisante envers ces secteurs?
Un mot de conclusion, Alain Finkielkraut, puis Pierre Rosanvallon. Alain Finkielkraut, nous vous écoutons.
Caroline Fourest nous dit que il y a toutes les, voilà, elle a raison, ce sont toutes les variantes de la gauche radicale, toutes les facettes de la gauche radicale qui sont présentes à Nuit Debout. Mais on aimerait, si vous voulez, qu'un débat citoyen soit plus large. Et ça, c'est très intéressant, parce que le mouvement de Nuit Debout, c'est une déception face à la représentation. On ne se sent pas représenté par ses représentants. Donc, on reprend la parole. Mais justement, ce qui est sacrifié dans cette reprise de parole, c'est le pluralisme même. Dans la représentation, il y a du pluralisme. Dans la démocratie directe, il n'y en a plus. En guise de pluralisme, il y a des discussions entre les différentes branches de la gauche radicale. Ça fait en réalité très peu de monde, ça fait très peu de monde, et ça n'instaure pas de débat digne de ce nom.
Merci Alain Finkielkraut d'avoir été en ligne avec nous. On vous retrouve évidemment samedi sur France Culture avec réplique, une réaction. Pierre Rosanvallon.
Je pense qu'il est indéniable qu'il y a sur la place un rassemblement de différentes catégories de l'extrême gauche, mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, beaucoup de gens passent pour voir. Il y a des gens qui sont là régulièrement, mais beaucoup de gens passent pour voir, même rapidement. Et passer pour voir n'est pas là pour prendre en quelque sorte une leçon de démocratie, n'est pas là pour dire « ils ont trouvé la solution au problème que je me pose », mais pour exprimer le fait aussi qu'on est en attente d'un changement de démocratie.
Brice Couturier.
Je voudrais juste citer un texte de Monique Dagneau et Olivier Gallon qui s'appelle « Nuit debout, gouvernement couché » qui est passé sur Telos et qui dit la chose suivante « Mais la plus grande partie des jeunes veulent moins refaire le monde que de trouver leur place en son sein. C'est moins d'utopie politique qu'ils rêvent que de solutions pragmatiques à leurs problèmes d'emploi ou de logement. » Et ça me paraît une assez bonne formulation.
D'accord, mais soyons sérieux. On est tout de même dans une situation dans laquelle notre démocratie est anémiée. On est tout de même dans une situation où il y a des formes d'épuisement de la démocratie représentative classique. Et personne ne pense que la solution, ce soit des manières utopiques de démocratie directe. Mais tout le monde sait bien qu'il faut trouver...
Il faut pas le laisser penser comme on fait parfois.
Mais tout le monde sait bien en même temps qu'à côté de la démocratie, il faut faire naître davantage de contre-pouvoirs. Tout le monde sait bien qu'à côté de ces contre-pouvoirs, il faut aussi organiser des espaces de délibération. L'idéal de la délibération, autrefois, c'était... Le Parlement délibère et c'est la société qui délibère parce que il représente cette société. Aujourd'hui, ça n'est pas la dimension représentative des partis a diminué. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de représentation, d'autres moyens de délibération, d'autres formes de contre-pouvoir. Donc, ne prenons pas comme tête de Turc, ni comme exemple qu'il faudrait mythifier ce qui se passe Place de la République, mais voyons qu'il y a tout de même un signe qui est fait qu'il faut sérieusement s'occuper de notre démocratie aujourd'hui. Et cela, tout le monde doit s'y préoccuper. Et ça n'est pas simplement moment, effectivement, place de la République, que ça se jouera, même s'il y a peut-être le côté étincelle que ça a donné. Mais il faut s'en occuper à la fois intellectuellement pour repenser les formes de représentation et puis l'expérimentation, elle n'existe pas simplement place de la République. Regardez, par exemple, dans des petites villes, dans la Drôme, un village comme Saillant qui a essayé de trouver des formes d'association plus large de la population. Il y a beaucoup d'expérimentations en France. Et je regrette qu'on ne parle pas justement de toute cette vitalité des expérimentations qui existent dans beaucoup de domaines.
Et pour poursuivre cette mobilisation, ou en tout cas cette manière de vouloir insuffler un nouveau sang à notre démocratie, que préconisez-vous, Pierre Rosanvallon ? On a parlé de la primaire. Y a-t-il d'autres pistes qui sont possibles ou qui peuvent être empruntées d'ici l'élection présidentielle ?
Je crois qu'aussi il y a des façons d'organiser la prise de parole collective. Il est certain que lorsqu'il y a des émissions comme Les Pieds sur Terre, lorsqu'il y a moi une initiative comme celle Raconter la vie que j'ai lancée, c'est une façon. Je publie là ces jours-ci le témoignage d'un ouvrier qui travaille dans un abattoir. C'est une réalité de la société qu'on ne fait pas tellement connaître. Donc il faut donner de la parole à ceux qui sont tout de même sans voix. Ils sont très nombreux dans notre société. Et organiser la délibération, ça, les médias ont aussi leur rôle à jouer. Je pense que dans l'étape de crise de la démocratie que nous connaissons, les médias ont un rôle vraiment particulier à jouer pour aider la démocratie à se redéfinir sur de bonnes bases.
Caroline Fourest.
Mais puisque la vitalité de la société civile existe et qu'au fond la délibération est quand même plutôt élargie par rapport aux autres années, est-ce que c'est vraiment une crise de la démocratie ou est-ce que c'est juste la prochaine affiche électorale qui est totalement désespérante ?
Non, mais évidemment, l'élection n'est pas la démocratie. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. L'élection est un moment de la démocratie, mais la démocratie, elle doit être plus large que l'élection. La démocratie, c'est faire en sorte qu'il y ait de façon relativement permanente le sens qu'un pouvoir est contrôlé, qu'un pouvoir doit rendre des comptes, qu'un pouvoir doit être évalué, qu'un pouvoir doit être surveillé. Et c'est cela, on pourrait dire, c'est cette nouvelle génération d'institutions démocratiques qu'il faut mettre en place. La révolution du suffrage universel était fondamentale et jusqu'à présent, presque tous les changements démocratiques auxquels on a pensé, c'était des changements dans l'ordre de la représentation. Le dernier, c'est celui de la parité pour faire que la société soit représentée plus largement. Puis c'était les primaires. Avant, c'était l'idée proportionnelle. Avant, c'était l'idée de parti qui représentait la société. Dans l'ordre de la représentation, il y a une crise parce que les partis eux-mêmes sont en crise. Les partis deviennent des appareils qui n'ont plus de dimension représentative. Et donc, il y a un évidement, malgré des progrès institutionnels, il y a un évidement du processus représentatif. On peut le réanimer. Après tout, Podemos l'a réanimé. Macron veut lancer son parti. Autrefois, il y avait des jeunes qui ont lancé Nouvelle Donne. Que des partis nouveaux naissent, au moins, ça fait remuer un petit peu les choses. Mais à côté de cette rénovation du monde politique, il faut véritablement travailler maintenant à la construction de cette nouvelle génération d'institutions démocratiques.
Merci beaucoup Pierre Rosanvallon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le bon gouvernement au seuil.